France Culture. Le journal. Marie-Hélène Duvigneau.
Bonjour à tous, il est 9h. 176 voix pour, dont celle du PS, 161 contre, dont celle de LFI. La fracture de la gauche s'est accentuée lors du vote hier du volet recette du projet de budget 2026 de la Sécurité sociale. Même si ce ne sera que dans 4 ans pour les JO d'hiver dans les Alpes françaises, le projet de construction d'une patinoire olympique à Nice fait polémique, son coût est pointé du doigt. Il fait partie des plus gros investissements privés français en Amérique latine, le port de Puerto Antioquia au nord de la Colombie. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était sur place hier. Et puis, le rap américain ne fait plus recette. Pour la première fois en 35 ans, aucun titre n'a été ces deux dernières semaines dans les 40 premières places du classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis. Le résultat était loin d'être acquis. Les députés ont adopté hier la partie recette du budget 2026 de la Sécurité sociale. Ils peuvent désormais se consacrer au volet dépenses, avec notamment la suspension de la réforme des retraites, condition pour les socialistes de la non-censure du gouvernement. Elle sera examinée mercredi. Hier, c'est par 176 voix contre 161 et 58 abstentions que la partie recette a été adoptée. Le PS a voté pour, LR s'est abstenu, tout comme les écologistes et les communistes, quand le RN et LFI ont voté contre. Un PLFSS qui met donc en évidence la fracture de la gauche, Laurence Perron.
Infâme, les mots sont de Jean-Luc Mélenchon, qui ne s'attendait sans doute pas à l'abstention des écologistes, dont les votes dans l'hémicycle étaient clairement alignés avec ceux de LFI. Le patron du Parti Socialiste acte lui clairement la rupture avec LFI. Pour Olivier Faure toutefois, ce vote n'est pas un chèque en blanc signé au gouvernement.
Nous allons passer maintenant à la partie dépenses. Le gel des pensions, le gel des prestations, les franchises médicales pour ne prendre que les principales. Et donc nous voulions effectivement parvenir à ce que ce débat puisse avoir lieu. Je remarque qu'il n'y a que deux groupes qui ont voté contre, la France Insoumise et le RN, ce qui me désole parce que ces deux partis-là prétendent défendre les classes populaires. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils ont fait le jeu du pire.
Le RN, en cohérence avec ses votes, a voté contre cette partie recette, estimant que les socialistes ont intrigué pour sauver leur siège.
Tout ça pour sauver le système, sauver leur siège, et une fois plus...
Jean-Philippe Tanguy, le monsieur finance du RN.
Éviter la dissolution et donc éviter d'aller rendre des comptes devant les Français.
On est très très loin de la fin de la partie budgétaire, qui doit être sifflée avant la fin décembre. Et nul doute qu'avec la main d'un Sénat majoritairement à droite, le texte va être profondément remanié dans les semaines à venir.
Et dans ce contexte d'économie budgétaire, un projet pose question, celui de la construction pour les JO d'hiver 2030 dans les Alpes françaises d'une patinoire olympique à Nice, ville qui doit accueillir les épreuves de glace. Ce n'est que dans 4 ans, mais le coût des équipements nécessaires est déjà pointé du doigt. 200 millions d'euros pour bâtir la nouvelle patinoire et aménager deux autres pistes éphémères dans le stade de foot, Mathilde Vincenoux.
La nouvelle patinoire de Nice coûtera 138 millions d'euros pour accueillir notamment les épreuves de patinage artistique. Les matchs de hockey, eux, se tiendront au stade de foot de Nice, spécialement aménagé pour 80 millions supplémentaires. Un non-sens, a scandé Frédéric Maillot, rapporteur du budget sport à la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale.
C'est une folie budgétaire, c'est un caprice de riche que l'on ne peut pas se permettre. À l'évidence, ce choix reflète d'un arbitrage politique et non d'une réflexion financière.
Le rapporteur rappelle qu'il existe déjà une patinoire olympique à Marseille, une autre à Pralognan-la-Vanoise qui a servi pour les JO d'hiver de 92. Pourquoi ne pas utiliser ces équipements pour 2030 ? Réponse de la ministre des Sports, Marina Ferrari.
Nice a une tradition de sport de glace depuis longtemps. Il y a un club de hockey qui est très réputé, les Aigles, que vous connaissez. La construction de la patinoire de Nice sera le seul nouvel équipement sportif qui sera livré pour ces Jeux olympiques et paralympiques Alpes 2030.
Mais Nice a-t-elle besoin d'une nouvelle patinoire de 12 000 places? Non, fustige l'écologiste Juliette Chesnel-Leroux, élue municipale d'opposition.
Ça nous semble ahurissant, surtout quand on sait qu'à Nice, il y a trois fois moins d'équipements sportifs que dans d'autres villes équivalentes, comme à Toulouse par exemple.
Le maire Christian Estrosi n'a pas souhaité faire de commentaires. Les travaux à Nice doivent démarrer en 2027.
Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, appelle les préfets responsables de la sécurité à renforcer les mesures de vigilance à l'approche de la commémoration des attentats du 13 novembre 2015. Hier, le parquet national antiterroriste a annoncé que trois jeunes femmes ont été mises en examen et écrouées le mois dernier à Paris. Elles sont suspectées d'avoir préparé préparer un attentat djihadiste. France Culture, 9h et bientôt 5 minutes. Il a coûté 770 millions de dollars. Le port de Puerto Antioquia dans la région d'Urabá, au nord de la Colombie, est l'un des plus gros investissements privés français en Amérique latine menés par CMA-CGM. En tournée sur le continent américain, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, était sur place hier. Le reportage de Marie-Ève Deteuf.
Les travaux ont pris du retard et le ministre n'a pas pu couper le ruban. Mais pour lui, les gigantesques grues de Puerto Antioquia ont fait une démonstration de leur précision. Le port est, selon ses constructeurs, une réussite technologique, environnementale et sociale. Jean-Noël Barrault.
Les communautés ont été associées de près à la conception du projet. Elles vont en bénéficier puisque des centaines de personnes ont pu être formées et que ce projet créera jusqu'à 5000 emplois directs dans la région.
À Puerto Gérone, le hameau misérable le plus proche du port, les jeunes rêvent d'un avenir meilleur. Emerson Perez.
Pour le moment, je ne travaille pas, mais j'ai bon espoir d'être embauché dans le port ou dans une des entreprises. Il y en a beaucoup qui vont arriver, je suis donc très optimiste.
Le maire de la municipalité de Turbo, dont dépend Puerto Antioquia, est lui aussi optimiste.
Urabá est une région qui a connu le fléau de la violence. Tous les groupes armés sont passés ici. Il en est resté des grandes inégalités sociales. Nous espérons que l'arrivée de ce grand projet industriel va contribuer à les réduire.
L'Urabá est une région par laquelle transitent encore beaucoup de drogues. Puerto Antioquia est archi-sécurisé. Miguel Angel, 76 ans, dit que les anciens ont peur.
Beaucoup disent qu'il va y avoir des morts. Beaucoup de morts à cause de la cocaïne. Les narcotrafiquants vont arriver en force.
Miguel Angel, lui, pense que le port est une bonne chose pour la région et le pays.
Et lors de sa visite, Jean-Noël Barrault a assuré la détermination de Paris à faire échec au trafic de drogue qui explose en Europe, notamment en créant une académie dédiée en Amérique latine. En attendant l'ouverture de la COP30 demain au nord du pays, le sud du Brésil a été frappé hier par une tornade qui a fait au moins 6 morts et des destructions sans précédent dans l'état du Paraná. Aux Philippines, c'est un super typhon qui est en approche. Près d'un million de personnes ont été évacuées alors que des rafales de vent jusqu'à 230 km/h sont attendues et que certaines régions sont déjà sous les inondations. Une visite officielle inédite, le président intérimaire syrien Ahmad al-Sharih est arrivé hier aux États-Unis au lendemain de son retrait de la liste noire américaine du terrorisme. Il sera reçu demain par Donald Trump. Au cours de cette visite, il devrait signer un accord pour rejoindre la coalition internationale anti-djihadiste menée par Washington. L'Ukraine s'efforce de rétablir l'électricité après des frappes russes massives qui ont endommagé ses infrastructures énergétiques la nuit dernière, a selon la ministre ukrainienne de l'énergie, été l'une des plus difficiles depuis le début de la guerre. Une page musicale à présent et cette question, le rap américain est-il en déclin? Alors que tout semble aller pour le mieux avec Kendrick Lamar en tête des nominations aux Grammy Awards, il faut savoir que ces deux dernières semaines, il n'y a eu aucun titre de rap américain dans les 40 premières places du classement hebdomadaire des 100 chansons les plus populaires aux États-Unis, du jamais vu en 35 ans, Faouzi Trita.
Le rap américain, ces dernières années, a souffert de la standardisation. Dans les textes, l'argent et le pouvoir sont omniprésents, les techniques sont les mêmes, les voix sont arrangées avec l'autotune qui corrige les fausses notes. Il y a une lassitude, selon l'écrivain spécialiste du rap américain, Karim Adani.
L'expression aux États-Unis, ils disent « son of Migos », les fils de Migos. Et en fait, tout le monde rappe comme Migos. Et tout le monde rappe comme ça, tout le monde rappe comme Atlanta. Comme à un moment, tout le monde rappait comme Booba en France. J'allume ma radio, j'arrive plus à différencier quel rappeur de quel rappeur. Toujours les mêmes autotunes, toujours les mêmes refrains, les mêmes pots de yaourt. Il y a une fin de cycle pour ce type de rap-là.
Il y a 7 ans déjà, le grand Eminem avait dénoncé des rappeurs jetables et interchangeables. L'autre raison, c'est le triste destin de jeunes rappeurs américains. Karim Madani y a consacré tout un ouvrage, Murder Music, l'histoire sanglante du rap américain.
Il y a 3 rappeurs qui auraient pu devenir d'énormes stars et qui sont morts. Pop Smoke, Nipsey Hussle et Triple X Temptation. Eux, ils ont été fauchés un peu dans leur jeunesse. Ça aurait pu être des stars d'aujourd'hui. Pop Smoke, il aurait pu être un Kendrick, il aurait pu être d'égal avec Kendrick Lamar aujourd'hui.
Le rap américain est aussi concurrencé par d'autres styles musicaux grâce à la démocratisation des plateformes de streaming. Elena Oliveri est spécialiste du rap américain et productrice du podcast Remember the Time.
Tout ce qui est reggaeton, tout ce qui est chata, tout ce qui est bouillon, tout ce qui est amapiano en Afrique du Sud en ce moment, tout ce que les artistes nigérians sont en train de faire, en fait, ça intéresse beaucoup. et ça diversifie les écoutes et en fait tout se mêle parfaitement bien.
Le rap américain n'est pas mort pour autant. Il y a une scène importante, moins commerciale, plus contestataire, qui s'inspire des années 90 à la grande satisfaction des puristes.
Le temps aujourd'hui ensoleillé au sud dès ce matin, couvert partout ailleurs, avec peu de chances d'apercevoir des éclaircies en journée. Quelques gouttes même ce matin entre l'Alsace et l'Auvergne. Les températures cet après-midi de 10 degrés en plaine d'Alsace à 18 autour de la Méditerranée.